Mémodio, une mémoire sonore.
Bonsoir aux auditeurs nombreux et au public du Théâtre du Hangar, ce vendredi du Festival des Bruissonnantes. Je crois que c'est le 13e Festival des Bruissonnantes que nous organisons au Théâtre du Hangar avec l'équipe du Hangar, avec Sébastien Lespinasse, avec moi-même et avec les artistes invités et aussi avec le public. Le Festival des Bruissonnantes, c'est un festival qui se risque à convoquer la musique, le corps, la voix, les mots, des entreprises très audacieuses en poésie, très diverses, avec des artistes nouveaux tous les ans, sauf le petit groupe des parleurs dont on dira quelques mots tout à l'heure, Sébastien et moi sans doute précisément. Alors ce soir, dans cette petite rencontre, on va essayer de faire le tour avec les artistes qui sont là, les 5 ou 6 qui sont là, de quelques aspects, de tentatives qui sont faites pendant les jours qui se suivent, hier, aujourd'hui et demain. Tous les soirs, 3 intervenants ou intervenantes, et en plus, le vendredi soir, traditionnellement, avec Canal Sud en particulier, on fait une émission un petit peu de méditation sur ce qui est fait, et demain soir, à 19h, il y aura une conférence sur le thème de la grâce qui s'appelle « Gare à la grâce ». Alors ce soir, il y aura donc en premier, à 21h00 plus 10 minutes de retard toulousain naturellement, mon voisin de droite, Sébastien Lespinasse, acteur fondamental de la poésie à Toulouse et aussi d'ailleurs en d'autres endroits, y compris jusqu'au fond de l'Arménie, où il a été faire un spectacle avec des choupa-choups, en partie avec la mafia arménienne et moi-même. Très bien. Et ce soir, c'est lui qui commence avec... des textes, je vois qu'il est question de trous peut-être, on ne sait pas très bien. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, Sébastien, ce que tu envisages de faire ce soir à tes risques et périls et aussi à ceux du public?
Oui, alors je crois que je sais à peu près ce que je vais faire ce soir. Il ne sera pas trop question de choupa-choups pour tout vous dire, j'en suis navré. Je vais interpréter un certain nombre de textes qui appartiennent à un livre que je suis en train de finir d'écrire. Ça fait depuis 3 ans que j'écris ce livre. Et qui s'appelle « Tenir la vie ». Alors, « Tenir la vie », c'est une sorte d'autobiographie de tout le monde. C'est une autobiographie de tout le monde, c'est-à-dire, moi y compris, bien sûr, j'appartiens au monde, j'appartiens au tout. Mais « Tenir la vie », c'est une formule infinitive, c'est la vie, c'est pas la mienne. Et ce qui m'a déclenché cette écriture, c'est au fond des conditions concrètes de travail. Il faut que j'en parle un tout petit peu parce que c'est à mon avis la chose la plus importante dans la création de ce texte. Je n'ai pas beaucoup de temps. Comme je disais tout à l'heure, je suis un peu comme le lapin de Lewis Carroll, je suis toujours en retard sur tout. Je suis en retard pour corriger les copies, en retard pour aller chercher les enfants, je suis en retard pour... Je suis en retard pour faire les cours, je suis en retard sur tout le temps, j'ai jamais le temps de rien. Alors j'écris parce que j'ai absolument besoin d'écrire. J'ai absolument besoin d'écrire parce que la vie qui me traverse est quelque chose que je ne peux pas garder pour moi. C'est une chose qui est trop grande pour moi. Je ne peux pas supporter de ne la garder que pour moi. Et aussi parce que je veux en conserver quelque chose. Et j'écris tous les jours. En allant au travail, je prends un tram à la porte de Vincennes et je vais jusqu'à la porte d'Italie. Ça dure à peu près 22 minutes. Pendant ces 22 minutes, j'écoute une musique microtonale, une espèce de son continu avec des variations. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Par exemple, j'écoute Sigu assez souvent. Et cette musique-là me donne un espace où, à un moment, des phrases peuvent me venir. Et j'écris donc pendant 22 minutes des phrases qui viennent, selon la stratégie d'écriture qui s'est inaugurée dans « Traduire le fantôme », mon précédent livre, aux éditions du dernier Télégramme. Seulement, voilà, là, ce qui se passe, c'est que cette fois-ci, ce n'est plus des phrases, c'est des sortes de tiroirs, c'est-à-dire c'est des ensembles. Et donc, j'écris grâce au téléphone, j'écris directement sur mon téléphone, ce qui me permet aussi d'écrire en pleine insomnie, dans la nuit... Je vais donner le biberon à Cléo, ma fille de 2 ans, et puis j'arrive plus à me rendormir, il est 2h30 du matin, et donc plutôt que de ressasser, je cherche une phrase, quelque chose pour continuer, que comme donner une légende au jour qui passe. C'est un peu ça aussi, une légende au sens de la légende qu'on donne à un tableau, hein, une description. Et donc j'écris comme ça, et j'ai un paquet de phrases. Au bout d'un moment, je sens intuitivement que ce paquet fait lien, j'enlève des choses, j'en rajoute d'autres, j'équilibre, j'amende, c'est comme du jardinage au fond. Et finalement, c'est l'histoire d'une vie qui me traverse, c'est vraiment ma vie, mais c'est vraiment au fond la vie d'un peu tout le monde. Je n'aurais pas trouvé cette forme, qui est une forme que je pourrais appeler de juxtaposition, c'est-à-dire de phrases qui se posent à côté et qui ne cherchent pas forcément à faire du récit tout le temps. Je n'aurais pas pu trouver cette forme si je n'avais pas lu, parmi d'innombrables lectures, le travail d'une poète très importante qui vient de nous quitter il y a 2 semaines. C'est Lynn Erinyan, c'est une poète américaine, new-yorkaise, qui fait partie de ce qu'on appelle les language poets. Et elle a écrit une autobiographie qui s'appelle Ma vie. À 45 ans, elle a écrit son autobiographie en 45 chapitres de 45 phrases. Et ce qui se passe dans cette autobiographie qui m'intéresse beaucoup, c'est la liberté de ne pas avoir un récit tout prêt, qui est le récit tout tracé de l'autobiographie. Et donc, d'avoir une espèce de liberté comme ça. C'est-à-dire que la juxtaposition, c'est aussi une recherche de l'écart. Qu'est-ce qui se passe entre 2 phrases? Quels sont les espaces qu'il y a entre 2 phrases? Au fond, c'est comme écrire des écarts. C'est aussi écrire ce qu'il y a entre. Au fond, idéalement, si je puis dire, c'était une phrase qui m'avait frappé, qui est merveilleuse. C'est un élève de Wittgenstein qui dit, mais moi, j'assume le contresens, hein. Un élève de Wittgenstein disait de Wittgenstein, son œuvre non écrite est la plus considérable. Et j'adore cette idée que l'œuvre la plus considérable, c'est celle qui n'est pas écrite. Alors, lui voulait dire l'enseignement oral de Wittgenstein. Moi, c'est autre chose. C'est, au fond, tout ce souci constant, quotidien, de chercher quand même une phrase comme un sens à donner à son existence. C'est un peu ça, au fond, comme une façon, un sens à donner, mais à partager, parce que le langage nous permet quand même de partager des choses, c'est quand même une des raisons. Et cette écriture comme ça, si vous voulez, en faisant cette écriture-là, j'ai laissé de côté mes recherches et mes expérimentations dans la poésie sonore, et en fait, ce qui me touche, c'est qu'elles reviennent en dépit de moi. Elles sont là, en fait, il y a quelque chose un peu de l'ordre de la magie, c'est-à-dire quand le texte arrive, que j'arrive au bout, il est à la fois immensément, il y a un grand souci de chaque détail, et en même temps je ne sais pas du tout quel est l'ensemble, un peu comme quelqu'un qui ferait un puzzle, mais on n'est pas bien sûr que les formes prédécoupées donnent un ensemble, et puis on force un peu pour que ça rentre. Et au bout d'un moment, ça donne une forme peut-être un peu monstrueuse, mais terriblement vivante.
Alors, pour ce soir, ils sont appelés « Poèmes troués », des poèmes, bon, c'est un titre, hein, comme cela, mais hier soir, on avait un autre poète, c'est-à-dire, si on se dit par poète, quelqu'un qui fait du texte, qui s'appelle Louis d'Orsen. Il était aussi pas mal question de trous dans vos textes, puisqu'il était question du trou du ciel, et puis, oui, c'est ça, et puis ensuite de volcan, et puis il n'y a pas de volcan sans trou, voilà. Et alors, qu'est-ce que vous nous avez fait, pourquoi et comment, et c'était accompagné par du son, voilà, il y avait vous, il y a une barbe en plus, un homme charmant, et puis soudain, il y avait du volcan, et puis il y avait des trous, ça y allait. Qu'est-ce que c'était?
Alors, oui, poète me va bien. Comme nom, parce qu'effectivement c'est un travail sur la langue et sur le texte. Alors si j'ai bien compris la question, c'est pourquoi le trou ?
Pourquoi
pas le trou ? Pourquoi le trou ? Le trou en fait est venu un peu de lui-même. Il est apparu dans l'écriture alors que j'étais en train d'écrire sur un autre thème. Bah, justement au milieu du volcan, il y a un trou qui est apparu et qui a pris son autonomie dans le processus d'écriture. Eh bien, le trou, il m'a semblé intéressant parce que justement, il est tout ce qu'on n'arrive pas à dire ou tout ce qui est compliqué de dire. En fait, c'est vraiment le centre du poème qui est complètement invisible, mais qui me semble est là dans absolument tous les écrits qui comptent un peu. C'est celui autour duquel on tourne. C'est cette absence visible et cette absence visible, oui, je voulais la définir justement par tout ce qu'il y avait autour et donc la nommer et l'affronter directement.
Et là, vous étiez bien présent sur la scène.
Et on était bien présent sur la scène, tout à fait, parce qu'il y a cet aspect proffératoire, justement, ou tempestaire, qui est un terme qui me plaît bien, vraiment d'appeler le déluge, d'appeler les éléments, puisque ce trou, évidemment, fait aussi appel à des échos écologiques, si on peut dire comme ça, puisque c'est évidemment le trou dans la couche d'ozone. Ça fait appel à différentes couches de sens qui me semblaient rentrer dans ce trou, justement, qui était polysémique.
Et moi, Louis, par rapport à ce que tu as fait, moi, je t'ai connu par le livre qui est paru aux éditions Vroom, qui s'appelle « Quatre catastrophes ». Alors, je dois dire, moi, j'adore les catastrophes. Dès que j'ai vu quatre catastrophes, je me suis dit, ça, c'est pour moi, ça va me rassurer, ça me rassure beaucoup, les catastrophes. Mais toi, pourquoi, je crois que c'est ton premier livre, édité de poésie, me semble, en tout cas, ou peut-être je me trompe.
On ne sait pas.
Pourquoi est-ce que tu choisis d'écrire sur la catastrophe? Qu'est-ce qui t'amène à ça? Et pourquoi quatre? Pourquoi ces quatre-là aussi?
Parce que je suis comme à peu près, à mon avis, toutes les personnes de mes générations et celles d'au-dessus et celles d'en dessous, assez habité par les questions qui nous sont posées aujourd'hui en termes écologiques, et que il me semble que la poésie a un rôle à jouer dans cette approche de questions qui sont très pratiques, mais aussi qui concernent tous les aspects de notre vie. Et je voulais trouver une réponse à ça, en fait. Et j'ai beaucoup lu d'ouvrages, par exemple la collection Actes Sud, Monde Sauvage, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, voilà, avec Baptiste Morisot, Vinciane Després, François Sarano. Et j'ai beaucoup lu ça m'intéressait énormément, cette variation littéraire, philosophique, d'essais qui jouaient sur la fiction pour parler de notre monde. Et dans le même temps, en fait, je suis tombé sur un article de Frédéric Lordon, dont on connaît le caractère un petit peu taquin, et qui a fait un article dans Le Monde Diplo qui s'appelle « Pleurnichel vivant », qui a été assez décisif dans l'écriture de ce recueil, puisque dans « Pleurnichel vivant », en fait, il soumet au lecteur une critique qui me semble très juste, c'est que dans toute cette collection-là, en réalité, les causes des catastrophes qui sont en train d'arriver ne sont pas adressées. Il dit par exemple que le mot capitalisme n'apparaît que deux fois dans l'ensemble de la collection qui a été publiée chez Actes Sud. Donc, c'est que l'écriture sur l'écologie, sur le monde, sur ces questions, sur ces sentiments même, elle existe et en même temps, elle s'adresse pas, elle n'ose pas se mouiller dans des questionnements plus politiques ou dans des actions plus politiques. Et j'ai voulu essayer de voir ce que ce serait une écriture un peu plus politique, adressée de manière un peu plus directe, plus frontale. À travers la poésie, qui me semble être l'endroit le plus adapté justement pour travailler à la fois le langage et cette question-là de manière frontale.
Alors pardonne-moi de faire l'avocat du diable, mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre la poésie qui est une recherche d'un inconnu, qui est une ouverture au sensible vers quelque chose qui est un peu indéterminé, qui est quelque chose qui se cherche, tu peux ne pas être d'accord avec ça bien sûr, et l'idée d'une politique qui suppose le fait d'être au-dessus, de voir de loin, de prévoir, d'avoir une vision. Peu à long terme.
Évidemment, je ne vais pas dire que la poésie est quelque chose qui recherche le convenu, surtout ce qui ne fait pas de surprise et ce qui ne cherche pas à surprendre. Il me semble que ce qui est intéressant avec ce questionnement écologique, mais vraiment dans toute sa diversité et qui rejoint aussi des écritures autrement politiques, d'antiracisme, d'écriture queer, qui est vraiment transversale dans la société, ça rejoint la question de la catastrophe. En réalité, l'écologie adresse le monde à venir, et c'est un monde qui, lui, est essentiellement inconnu. Justement parce qu'on n'arrive pas à imaginer, on a du mal à imaginer quelle forme va prendre ce monde-là. Et là, la poésie peut devenir prospective, c'est-à-dire qu'elle ne va pas devenir un plan quinquennal ou je ne sais quoi, mais elle va s'adresser aux politiques dans son sens premier, étymologique, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce que pourrait être cette vie, que ce soit sans les humains, par exemple, ce que j'ai essayé de faire avec Quatre catastrophes, puisque c'est vraiment un recueil sur les éléments, sur les choses, sur le monde, mais sans habitat humain, sans présence humaine, autre que ma propre voix. Et ainsi, qu'est-ce qu'on peut avoir comme dénouement, c'est-à-dire comme catastrophe aussi, étymologiquement, à cette crise, à ce questionnement, à cet inconnu. Voilà, et c'est pour ça que l'écriture me semble être la réponse la plus appropriée, et il me semble qu'elle est intrinsèquement politique. Et que renoncer à une écriture qui serait politique, c'est aussi faire une écriture politique, mais qui s'empêche de voir, qui s'aveugle, qui se crève les yeux. Voilà.
Bah, tu citais Vinciane Després, et je pense à ce livre génial qui s'appelle L'autobiographie d'un poulpe. On est encore dans des histoires. Donc c'est un poulpe qui dit je. Qu'est-ce que c'est si les animaux écrivaient? Comment ça marcherait? Et j'ai senti effectivement dans le texte que tu nous as donné à entendre hier, et puis aussi en le lisant la première fois, qu'au fond, peut-être la dimension politique, d'une certaine manière, c'est la possibilité de rentrer dans un jeu qui est dans une identité, dans un jeu, dans une subjectivité qui n'est pas humaine.
Oui, exactement. Je pense que il faut revenir sur le sens de politique. C'est s'intéresser à la manière dont, pour reprendre l'expression de Donna Haraway, c'est la manière dont nous habiterons les ruines, quoi. Voilà. Donc, et il faut dessiner ces ruines à travers l'écriture. Voilà, c'est ça qui me semble intéressant. Et ces ruines-là, ce sera pas la même humanité qui l'habitera. Et donc, comment déjà rénover l'imaginaire sans nous? Donc penser avec les animaux, avec les non-humains, avec tout l'environnement, avant de penser la présence humaine là-dedans.
Voilà. Il me semble que hier soir, vous nous mettiez face au trou, pour reprendre encore ce mot, hein, le trou de l'avenir, le trou du volcan, etc.
Je suis content qu'il vous ait marqué.
Ah oui, le trou était vraiment là. Mais juste un peu après, c'était Florian Astorg, après Catherine Froment, et là, vous nous présentiez un trou, c'est-à-dire l'instrument que vous présentiez, le saxo, moi j'étais au premier rang, et ce qu'on voyait, alors on vous entendait, on vous voyait, mais on voyait le trou béant de votre instrument qui allait vers nous, parfois un peu menaçant, un peu terrible, parfois accueillant, il y avait quelque chose là comme ça qui était une présence de l'instrument lui-même avec ce trou qui est devant nous, presque gênant d'ailleurs pour certaines personnes, visiblement. Hein, il y avait une ou deux personnes qui sont parties un peu effrayées. Voilà, et c'était intéressant, voilà, ce trou qui surgissait devant nous.
Je ne savais pas que des personnes étaient parties, mais. En fait, je ne voyais personne, j'aime pas trop ça en général. Mais...
Deux ou trois étaient effrayés.
D'accord. Je n'avais pas pensé à cet aspect du pavillon, là, effectivement. Et dans ma tête, les trous, ils étaient pas mal dans le son aussi. Enfin, dans le son, dans ce que j'ai joué, dans les moments où j'ai pas joué. En fait, ça tombait bien de jouer hier soir, parce que lundi, j'ai eu la chance de venir ici toute la journée pour enregistrer. J'avais demandé à l'équipe du hangar, parce que j'avais envie de garder une trace sonore, quoi, de l'endroit, sachant que... Sachant qu'il va être détruit. Et lundi, à la fin de la journée, je râlais un peu, parce que je me suis dit, j'ai l'impression d'avoir joué plein de trucs, de saxophones et de machins, avec des notes partout. Et j'ai pas l'impression d'avoir fait jouer trop l'endroit. Et hier soir, finalement, c'est arrivé pas mal. Et je sais pas vraiment... C'était pas forcément prémédité ou quoi que ce soit, mais après coup, je me suis rendu compte que ça s'était présenté comme ça, et je me suis dit, bah, tant mieux, là, c'est fait, quoi. Et quand je dis que j'ai fait jouer l'endroit, c'est qu'il y a eu beaucoup de temps où je laissais résonner la pièce et tout ça. Et donc ça rejoint peut-être cette histoire aussi de trous et de tout ça.
Bah moi j'ai senti Florian en t'écoutant hier, surtout au début, que c'était comme une ponctuation. Tu ponctuais le temps et l'espace. C'était des sortes de ponctuations et ça sonne et résonne. J'ai senti cette dynamique là. Et puis on a entendu à un moment, et on en parlait tout à l'heure avec l'équipe, on a entendu à un moment et c'était très beau parce qu'il y avait aussi comme une sorte de fantômes que tu convoquais, en tout cas nous on a perçu ce fantôme, on a senti qu'il y avait un moment où tu avais la tentation de faire une chose terrible qui est un phrasé de jazz. On a entendu comme quelque chose qui venait là, mais que tu t'es retenu à la porte de ça. On sentait que c'était pas loin, et c'était presque comme un dessin au creux de ce son, de ce phrasé qui venait hanter le reste. Et comme un peu, et je partage ça parce qu'effectivement, c'est même impossible à penser que ce lieu va être détruit, mais il y avait comme une mélancolie de la destruction.
Tu parles de la fin ?
Oui.
C'est assez drôle l'analogie avec le jazz et tout ça. Moi, dans ma tête, je joue plutôt un riff. Enfin, je joue un do et un si. Un truc un peu simple. Un truc de rock, quoi. Mais en tout cas, ouais, il y avait ce truc presque idiomatique là. Je sais pas. Souvent, quand je joue seul comme ça, j'ai toujours deux ou trois mélodies sous le coude, qui sortent, puis je les tords et puis j'improvise autour, mais ça me fait un point d'ancrage. Là, c'est pas sorti. C'était peut-être dû au format particulier de jouer 20 minutes, là. Et bon, oui, il y avait presque un phrasé. Mais peut-être pas trop le jazz. Même si, bon, c'est du saxophone, il y a une histoire avec le jazz et tout ça. J'en ai écouté pas mal, mais les choses qui m'ont marqué, c'est plutôt les guitares un peu déglingues ou la no wave et tout ça. Et y a, quand je prends le baryton en particulier, pour moi, il y a plus ça derrière. Dans l'énergie de jeu, Yves, tu parlais tout à l'heure de, je sais pas, de la présence du trou qui était presque menaçant. Je sais que je me mets souvent en tension, enfin, physiquement, il y a un truc, même de retenue aussi, dans tout ce que j'en vois pas, mais qui est très.
Nous, ce qu'on aime bien, ce qu'on a bien aimé dans ce que tu faisais, outre le son, c'est la présence sur la scène de toi avec ton corps, tes mouvements et effectivement l'instrument. Pas simplement donc, le musicien assis et qui jouerait, je ne sais pas quoi, du violon ou n'importe quoi, et qui serait très calme et qui aurait une cravate éventuellement. Mais il y avait une sorte de performance qui était là, que nous voyons peut-être un peu menaçante, avec cet instrument qui avançait, qui reculait, toi-même, qui te recroquevillait, qui t'étendait sur l'instrument. Donc il y avait un travail performatif, pas simplement sonore. Et ça, c'était vraiment intéressant. Aussi pour les spectateurs.
Oui. Ouais, moi c'est juste ma manière de rentrer dans le son et d'aller chercher un peu la musique, me mettre dans une énergie de jeu, quoi. Et c'est pas forcément pensé comme consciemment un travail performatif ou tout ça, mais j'entends que à l'arrivée c'est quand même visible. Mais ouais, c'est juste comment rentrer dans le son et, voilà, dans le moteur un peu de ça, il y a beaucoup de tensions et de choses comme ça. Ouais.
Et Catherine Guette, ce soir, on ne nous a pas encore vus, puisque voilà, c'est ce soir que vous passez et que c'est ce soir et nous ne sommes pas encore ce soir. Et donc, Catherine Guette, la ciguë avec un double nom. Et alors, il y a quelque chose qui intrigue déjà quand on parle de vous, c'est musicienne, bon, très bien, philosophe en même temps. Et philosophe et musicienne, enfin voilà, bon, là, il y a un truc, c'est bizarre, quoi, pour certains.
Qu'est-ce qui est bizarre dans philosophe et musicienne ?
Ah, parce qu'on voit le philosophe un peu sérieux, avec une barbe, le crâne rasé, etc.
Mais voilà. La musique est
et
très
puis,
sérieuse.
Voilà,
aussi.
Voilà. Et la musique, c'est très sérieux, mais ailleurs. Voilà. Voilà. Évidemment, bon, il y a des gens dans la philosophie très ancienne qui ont fait de la musique, Nietzsche et bien d'autres. Mais vous, voilà. D'abord, c'est une femme en plus. Enfin, c'est étrange.
Oh là là, femme, voilà, philosophe, voilà. Musicienne, qu'est-ce que c'est
la totale, hein, voilà.
Et moi, je dois dire, je rajoute au paradoxe pour avoir entendu plusieurs fois Catherine Ciguë jouer. C'est pas une musique qui raconte un discours. Ouais, c'est une musique qui est immédiate au fond, qui est présente, qui nous met, qui nous relie comme ça immédiatement dans le son. C'est pas une musique qui apparaît comme réflexive à première vue comme ça, ou c'est pas une musique spéculative, ou je sais pas comment dire. Mais peut-être que la philosophie n'est pas que spéculative et méditative. Mais ça, c'est toi qui vas nous le dire.
C'est beaucoup de problèmes à
la
résoudre.
La philosophie, en plus. Là, vous avez 2 heures. Enfin, 3 minutes, pardon.
Ouais, il faudrait quelques années, là, je pense. Non, je sépare les deux activités, si c'est ça la question implicite. Effectivement, je n'ai pas une approche intellectuelle de la création sonore. C'est quelque chose d'assez... qui joue beaucoup sur les matières et sur l'écoute dans l'instant. Et ce que j'aime là-dedans, c'est justement, on en parlait tout à l'heure avec Félicie, c'est la capacité du son à suspendre le temps et à distordre notre perception du temps. Ça fait écho peut-être aussi à ce que tu disais, Sébastien, tout à l'heure, sur cette espèce de ne jamais avoir le temps, ce rythme. Et au contraire, le son peut nous installer dans l'instant et court-circuiter un peu ces... Voilà, ces logiques discursives qu'on a à longueur de journée, enfin en tout cas, qui moi m'accompagne dans mon travail, effectivement, de réflexion, de construction de concepts bien justifiés, bien raisonnés. Et là, au contraire, on a quelque chose de l'ordre de l'immédiateté, de l'évidence, de la matière. Et c'est reposant, en fait. C'est reposant de s'arrêter de penser. pour être dans quelque chose qui est de l'ordre du mouvement. Et donc, oui. Enfin, il n'y avait pas de question, mais oui.
Et en même temps, tu as écrit un livre qui... Enfin, tu as écrit plusieurs livres, mais tu as écrit notamment un livre. Et moi, c'est aussi comme ça que je t'ai rencontré au départ, sans connaître ta musique, par ce très beau livre qui s'appelle... en français dans le texte, The Most Beautiful Ugly Sound in the World, qui est, si je ne m'abuse, une citation d'un disque de Ryuji Ikeda, le deuxième, et qui parle de cette chose très étrange, et dont on doit quand même dire un mot, parce que ça a un rapport avec ce que tu fais, qui est la noise, le bruit. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que ce goût, peut-être un peu... Qu'est-ce que c'est que ce goût pour, je vous rappelle, le plus magnifique, horrible son du monde, hein. The most beautiful, ugly. Ugly, c'est ugly quand même.
Ouais, c'est laid.
Ouais.
C'est laid, mais c'est le plus beau des sons-là, effectivement. Bah oui, c'est l'objet du livre, c'est l'appréciation de sons qui peuvent paraître rebutants par leur caractère saturé, parfois... frontal, parfois violent, mais pas toujours. Et bon, la noise, c'est quelque chose qui est assez difficile à circonscrire. C'est un concept qui a émergé, qui est construit. Là, je travaille en ce moment sur un livre de David Novak qui s'appelle Japan Noise, qui réfléchit à la construction de ce genre musical à travers des va-et-vient entre le Japon, les États-Unis, comment tout d'un coup on se met à dire qu'il y a ce genre qui s'appelle noise. Mais bon, le noise rock, c'est pas de la noise parce que c'est pas du bruit pur. Alors comment on se distingue ? Alors ça devient très compliqué. Puis quand on va dans la noise, on voit que parfois il y a des mélodies, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est pas tout le temps chaotique. Parfois il y a des choses qui émergent. Donc c'est un peu une fiction. Enfin, comme tous les genres musicaux, on est toujours face à quelque chose de construit. Mais en tout cas, c'est bon, s'il faut présenter rapidement, c'est une approche du son qui est souvent improvisée, qui vise le bruit comme matière brute et non pas comme quelque chose qui viendrait contaminer une mélodie préexistante, hein, comme, je ne sais pas, chez Sonic Youth ou Lightning Bolt ou des groupes de rock qui font appel à de la saturation et à cette manière de brouiller les signaux. Là, c'est le brouillage du signal qui fait signal, en fait. C'est ce moment où ce brouillage sonore est ce qu'on veut écouter. Et bon, ce qui était intéressant dans ce livre, on a mené une enquête avec Pauline Nadrini pour ne pas simplement être dans un face-à-face avec les œuvres, comme on le fait parfois en esthétique. Et une enquête auprès d'auditeurs et d'auditrices de Noise pour voir ce qui était apprécié, ce qui retenait l'attention, comment les sons étaient qualifiés. Et on a essayé de lier ça à des concepts plus classiques en philosophie relatifs à l'écoute. Et ce qui s'avérait, c'était que l'écoute de ces sons qui peuvent paraître assez sauvages est souvent une écoute très raffinée, puisqu'il y a une qualification très précise du son, une capacité à discerner au sein de masses apparemment informes des fréquences, des dynamiques, et donc une écoute très active. C'est un peu comme ces livres pour enfants là, où chacun on raconte son histoire selon ce qu'on choisit. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais...
Les livres dont vous êtes le héros.
Voilà, exactement. Bon, bah, la noise, c'est un peu les livres dont vous êtes le héros, parce qu'on remarquait que cette écoute face à des masses informes qui... présente des sortes d'aspérités, des points marquants. Finalement, on est face à quelque chose d'assez indéterminé, et c'est par une écoute attentive qu'on va pouvoir tracer des sortes de fils d'Ariane, mais qui ne sont pas forcément les mêmes selon les personnes qui écoutent. Et donc toute cette logique de construction des œuvres par l'écoute attentive, donc ça c'est juste un des aspects qui ressort. Il y a aussi toute la question du corps, face à des volumes sonores parfois élevés, du sentiment d'immersion, de résistance ou au contraire de dissolution du corps. Et là, on serait plus vers du côté du dionysiaque, vous parliez de Nietzsche tout à l'heure. C'est des pistes, ça ne prétend pas être exhaustif, mais c'est des choses qui sont ressorties de nos entretiens. Et puis la thématique du sublime aussi, du corps qui résiste. C'est intéressant parce que le sublime est conceptualisé généralement à partir de, à la fois, un danger et un abri. C'est-à-dire la figure classique chez Kant du sublime, c'est la mer déchaînée, mais en même temps, on n'est pas dans la mer, hein, on n'est pas sur la barque, on est sur le rivage. Voilà, Caspar David Friedrich, voyageur contemplant la mer des nuages, bon, super, il y a un abri, donc il y a du déchaînement, mais un abri. Mais avec le son, il n'y a plus d'abri. On a le corps qui peut être traversé par le volume sonore. Et comment est-ce qu'on construit un abri dans ces conditions? Est-ce qu'on en construit un ou non? Et là encore, il y a cette idée d'un... Bah, peut-être qu'on peut revenir au sublime, mais à condition de savoir qu'on est en sécurité.
Moi, ça résonne beaucoup avec mon goût pour ces musiques-là. C'est-à-dire le fait d'être submergé, d'être totalement pris, et aussi, mais avec l'accoutumance, on apprend, mais quand même au départ, le plaisir de perdre ses repères, les repères temporels, de perdre le repère de la mélodie. C'est ce que Roland Barthes dit, il parle de deux textes, lui, il parle du texte qui fait plaisir, celui où on retrouve son bon goût. Et puis le texte de jouissance, celui où on est un peu paumé, on ne sait pas comment faire. C'est un peu ces œuvres qui résistent. On ne sait pas comment les écouter, on ne sait pas comment les lire, on ne sait pas comment les regarder. Je pense à certaines peintures aussi. Et du coup, on est obligé un peu d'apprendre ça. Et avec la musique, ce qui est important que tu disais, c'est aussi que c'est un sens immersif et il y a une dimension que moi je trouve sublime, enfin magnifique dans ces musiques-là. C'est la dimension tactile, en fait, du son. C'est que le son devient comme une façon de toucher. Et pour moi, la poésie aussi, je sais plus, j'avais mis cette citation pour parler du festival de Paul Celan, qui dit « Je ne vois pas de différence entre une poignée de main et un poème ». Il y a cette dimension-là de toucher. Et toucher, c'est un acte très étonnant, c'est l'acte un peu réciproque. Il y a quelque chose dans la musique, dans ces musiques-là. Et alors toi, Catherine, dans ton travail à toi, j'ai toujours perçu... En fait, c'est très étrange parce que tu fais de la musique dite « noise », mais en fait, « noise », on ne sait pas trop bien ce que ça veut dire parce que pour moi, ce n'est absolument pas du bruit au sens où c'est quelque chose d'insupportable à écouter ou au contraire, tu parlais d'un raffinement, c'est ça, c'est... J'entends, moi, toujours, dans ton travail, quelque chose qui a à voir avec une sorte de mélancolie sonore. Et aussi, quelque chose de très archaïque, de très ancien, et en même temps de très électrique. Parce que, en fait, est-ce que Catherine, comme bien d'autres musiciens, je pense aussi à Richard Comte, qu'on a invité ici, est-ce que Catherine joue vraiment de la guitare ou est-ce qu'elle joue des ondes sonores? Bon, il y a quand même des cordes qui vibrent. Hein. Alors, je ne sais pas. En tout cas, ce qui m'intrigue, c'est que tu fais devenir la noise autre chose par rapport à ce que je connais moi. Voilà. Et que ça fait travailler autrement l'écoute. Et moi, j'entends beaucoup dans ces sons qui peuvent être très électroniques, très électriques, pardon. Pas électronique, électrique, j'entends aussi tout un orchestre fantôme de sons acoustiques, en fait. J'entends du hautbois, j'entends des choses. Vous savez, c'est comme ces gens qui savent goûter les vins et qui sentent dans certains vins des notes épicées. Je sens petit à petit le goût, me fait sentir, me fait entendre. Comme d'ailleurs quand j'écoutais hier Florian Nastorg au tout début de son travail, où il y avait vraiment quelque chose de très minimal. J'entendais dans son souffle qu'il y avait plusieurs... c'est comme s'il y avait plusieurs sons en même temps qui partaient comme un fleuve avec plein de rives et plusieurs rythmes. Et c'était beau, parce que c'est beau quand on est... Enfin, quand il y a plein de choses qui... On sentait qu'il y avait des choses qui étaient maîtrisées, mais qui échappaient aussi.
Alors, bon, Félicie Balzer, peut-être vous, c'est demain soir, et vous, c'est avec une contrebasse... Et est-ce que vous allez nous amener dans une aventure où on se perd aussi, où on se trouve, ce qui semblait se dire ici, ou est-ce qu'on aura tout à fait autre chose?
Alors, non, pas tout à fait autre chose, enfin, je ne pense pas. En effet, je vois sur le programme que c'est écrit solo composé. Et en fait, ça me va bien. Je ne sais pas si c'est moi qui t'avais dit ça, Sébastien, ou quoi. Mais ça me va bien, parce que, en effet, c'est... Il y aura une forme de composition, quoi. Et justement, la composition, en fait, elle va se trouver dans une recherche sonore qui est proche en fait de voilà de ce dont Catherine parlait, de la noise, bien que je vais jouer de la contrebasse. Et pour plein d'aspects, ça ne sera pas de la noise, et je ne dis pas spécialement musicienne de noise, pas du tout. Mais en tout cas, j'essaye en effet d'aller à un endroit que j'estime, en tout cas, ou que je considère pour moi-même assez profond, qui est celui un petit peu du geste primitif. D'un geste basique de mon instrument avec lequel je fais des sons, et à travers une gestuelle va naître une musique en fait, et voilà. Alors c'est un moment aussi où moi je viens, voilà, j'ai un parcours de musicienne classique, j'ai fait des études classiques, j'ai énormément joué le répertoire baroque, classique, romantique, un petit peu bien évidemment le répertoire contemporain aussi. Mais là, aujourd'hui, depuis quelques années, j'ai l'impression de faire le travail inverse, en fait. J'ai l'impression d'inverser complètement mon rapport justement aux gestes et mon rapport au son aussi. Parce que quand, voilà, dans l'apprentissage de la musique donc dite classique, en tout cas la musique de répertoire, etc., c'est, voilà, il y a vraiment le beau son. Tout le monde sait ce que c'est que le beau son, je veux dire, on n'a pas besoin de le définir. En tout cas, c'est un espèce de but vers lequel on tente d'aller. Et donc, il y a plein de gestes super compliqués pour réussir à faire une phrase qui doit sonner simplement. Et ben voilà, là c'est, je suis partie dans un travail complètement inverse, complètement opposé, qui est de faire des gestes simples pour produire un son complexe. Et dans ces moments-là, donc quand j'expérimente ces sons-là, quand je les travaille, quand je les produis, il y a quelque chose qui se, il y a le temps et voilà, est un élément primordial pour que ces sons émergent, et aussi pour qu'on les entende et pour qu'on les écoute et pour qu'on aille profondément dans l'écoute de ces sons-là. Voilà, il y a certains sons, ils peuvent pas être écoutés une minute, ils peuvent pas être écoutés deux minutes, il faut qu'ils soient écoutés 10 minutes, sinon en fait on perd toute leur profondeur. Et c'est des endroits comme ça pour moi qui touchent, enfin, où j'ai, en tout cas moi ça me touche, ou j'ai la sensation en tout cas de pouvoir transmettre quelque chose de touchant avec ces sons-là, bien qu'ils soient très, voilà, malgré qu'ils soient complexes, il y a une forme de simplicité malgré tout. Et voilà, j'ai la sensation de pouvoir toucher quelque chose d'assez profond et quelque chose qui relèverait un petit peu de quelque chose de primitif, quoi. Et puis c'est aussi une manière aussi pour moi de faire aussi entendre la contrebasse d'une manière différente de d'habitude, quoi. Ça me plaît d'aller chercher dans le ventre, peut-être dans le trou de la contrebasse, je sais pas, mais en tout cas voilà, d'aller loin dans les textures et les matières que cet instrument peut proposer, quoi.
Et je crois que c'est très très bien que tu nous racontes cette histoire de gestes, parce que c'est vrai qu'on oublie que la musique, c'est aussi jouer des gestes. C'est jouer des sons, c'est jouer des silences, mais c'est aussi jouer des gestes, c'est jouer des présences. Et dans ton rapport à la contrebasse, je me souviens l'année dernière de Louis-Michel Marion, qui était venu avec qui avait cette très très belle contrebasse, et que cette contrebasse, elle était aussi comme un corps au fond. Et j'ai l'impression que cet instrument, qui est très pénible parce qu'on ne peut pas le transporter dans les trains quand on est invité dans des festivals, cet instrument qui est toujours compliqué à transporter, qui est une espèce de cadavre énorme, de corps énorme, j'ai l'impression que forcément, il engage aussi quelque chose de l'ordre de l'implication du musicien qui se fonde dedans. J'ai cette sensation-là. Et toi, j'étais très étonné. Une fois, je t'ai vu improviser avec une contrebasse. Et vraiment, en fait, non seulement c'était de la musique, mais c'était du geste, et c'était même aussi un peu de la danse.
Mais c'est ce que disait Florian aussi tout à l'heure, quand tu disais qu'il y avait presque un aspect performatif dans le solo de Florian. Et en fait, bah, d'une certaine manière, c'est pas qu'on n'a pas le choix, mais en fait, c'est l'instrument demande ça. Ouais.
Oui, mais il y a une façon. C'était marrant tout à l'heure aussi. Catherine Guette parlait de la noise pure, ce qui est assez drôle, du bruit pur. Il y a aussi une façon et il y a une façon d'avoir une voix pure. Il y a une façon de faire une musique pure, de faire un son pur. C'est-à-dire un son dont on n'entend pas d'où il vient. On n'entend pas le raclement de la gorge. Oui. On n'entend pas le raclement de la corde. On n'entend pas. On n'entend presque plus. C'est une domestication du cuivre, c'est une domestication de la corde. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes dans une écologie un peu sauvage, non ?
Oui, oui. Mais c'est vrai, oui, Catherine, tu disais presque une disparition du corps, enfin, qu'il peut y avoir dans la noise, une sorte de disparition du corps. Et en effet, oui, oui. Ben, oui. En fait, enfin, je ne sais pas exactement quoi dire, mais en effet, c'est sûr que. Pour ma part, en tout cas, quand je joue de la contrebasse, bah oui, c'est tout mon corps qui s'active et qui s'y met. Et en effet, ouais. Et c'est quelque chose qui me plaît d'ailleurs. Je veux dire, c'est aussi pour ça que j'aime jouer de cet instrument, parce que c'est un instrument qui est assez physique, en fait, c'est sûr. Ouais, ouais, bien sûr.
Est-ce que pour savoir faire de la noise, il faut être un bon musicien, une bonne musicienne classique ?
Non.
D'accord.
Enfin, en fait.
Non, mais est-ce que ça vous a aidé, quoi ? Parce que vous avez tous un niveau apparemment ahurissant en termes de musique. en tout cas. Et je me demande si le perfectionnement classique, la maîtrise de l'instrument en termes de musique de répertoire, peut aider à aller chercher d'autres choses, justement, dans le renversement, dans la déconstruction.
Personnellement, je pense pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense pas. C'est évident que moi, je viens d'un instrument à cordes. Alors après, dans le sens où c'est un instrument quand même assez traditionnel. En plus, mon premier instrument, c'est le violoncelle. Donc, disons que voilà, moi, j'ai été éduquée instrumentalement parlant, vraiment avec, je veux dire, voilà, une technique classique, oui. Et que voilà, ça fait des années que je détourne, que je renverse, que j'inverse, que je cherche différemment. Après, c'est peut-être des fois, je sais pas, c'est peut-être plutôt une histoire de méthodologie, peut-être pas tant une histoire de technique, de savoir en fait comment travailler et d'utiliser. Enfin, voilà, c'est peut-être plutôt une histoire de méthodologie. En tout cas, moi, je sais que mes études classiques m'ont bien évidemment aidé pour l'improvisation, mais peut-être plutôt dans une manière de savoir comment travailler, savoir une forme d'autonomie, quoi, peut-être. Je sais pas.
Peut-être la question des cultures orales et savantes aussi, parce que des gens qui apprennent dans un rapport immédiat et direct aux choses, et d'autres qui ont besoin de... Moi, je suis typiquement celui qui a besoin de lire tous les livres de natation avant de me noyer dans la piscine. Mais il y a des gens qui ont besoin de se jeter à l'eau tout de suite... Bon, chacun a ses méthodes. Hein. Ben l'important, c'est d'arriver à respirer là-dedans. Je voudrais juste dire un petit mot. Ah, tu voulais parler, Florian, pardon. Pardon, vas-y,
non,
Florian.
Je voulais juste relever ce que tu dis aussi, par rapport à l'oralité. Je pensais à ça. Moi, l'apprentissage des musiques bruitistes ou ce que je sors avec le sax aujourd'hui, c'est passé beaucoup par l'écoute des disques et aller voir les groupes en concert et sentir un peu voir ouais vraiment par là ouais et puis après vouloir faire pareil chez moi tester des trucs et avec les collègues en musique aussi c'est passé par là il y a pas mal ce truc de l'oralité en fait.
Je voudrais juste dire un petit mot par rapport quand même à notre conférencier performeur, notre conférencier d'action, Yves Lepestipon, qui nous propose, grâce à lui, nous obtenons d'énormes subventions qui nous permettent de vivre grassement, je crois que c'est le terme cette année, de vivre grassement. Et donc, Yves, comme comme tous les samedis, j'aimerais dire comme tous les samedis du monde, mais comme tous les samedis des Bruissonnantes, il a cette mission délicate de récupérer le thème qui n'est pas toujours transcendantalement passionnant du printemps des poètes, dont on salue aujourd'hui le Godfather, une fois de plus. Et il propose une exploration de la littérature, souvent, ou de la poésie, à travers le thème qui, visiblement, y échappe très souvent. Est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur cette garce de grâce dont tu vas nous parler?
Oui, la grâce est grâce, et grâce à la grâce à la garce, etc. Oui, évidemment, cette année, c'est particulièrement passionnant, à la fois parce qu'il y a l'affaire de celui que tu appelles le Godfather, c'est-à-dire Sylvain Tesson, et donc le mécontentement qu'il a suscité chez certaines personnes, bon, qui est un peu, voilà, et effectivement, le fait que la directrice du Printemps des Poètes a renoncé à diriger tout ça. Il se trouve que c'est une ancienne élève à moi, et que je la connais assez bien, et qu'elle était très jolie, elle a perdu 5 kilos pour séduire son patron, qui l'a ensuite nommé président du Printemps des Poètes, donc la graisse et la grâce, c'était un peu contradictoire. Et donc elle a mis ce thème de la grâce qui est un peu embêtant, qu'on va traiter un petit peu, qui est un peu embêtant parce que quelque part j'ai appelé ça gare à la grâce, à la fois parce qu'il y a les affiches sur la grâce sont dans la gare à Toulouse un peu partout, on peut pas y échapper. Après, quand on sort du Paradis Valéry Giscard d'Estaing, on tombe immédiatement sur la grâce, avec cette phrase magnifique de Sophie Nolot qu'il faut méditer, avec son accent circonflexe, elle hausse le ton. Bon, alors voilà, c'est pas très bien ce que veut dire hausser le ton, mais c'est pas grave. Et aussi à cause du hangar, parce qu'effectivement le hangar, il y a la gare dedans. Enfin, gare au hangar, il faut sauver le hangar. Mais quelque part, l'idée que je vais essayer de défendre demain avec l'œuvre de Valéry Giscard d'Estaing, comme toujours, avec un personnage très important, c'est qu'il y a quelque part une idéologie de la grâce qui se déploie un peu sur le temps et qui est un peu dangereuse pour la poésie. D'une part, la grâce a une dimension théologique, mais toute poésie n'est pas théologique. La poésie est très souvent matérielle, on le voit un petit peu comme ce qu'on a vu hier, en effet. Et d'autre part, il y a cette idée que la grâce, c'est bon, quelque chose comme le joli, le mystérieux, l'agréable, le plaisant, etc. Or, il y a un certain nombre de poètes qui ont des sales gueules et qui font des sales poème. Déjà, Victor Hugo aimait l'ortie et l'araignée. Et donc, effectivement, enfermer la poésie dans la grâce et poser l'idée d'un thème même, ce qui est presque contradictoire avec l'idée de poésie, qu'on prenne un trou, qu'on prenne un caillou, qu'on prenne un saucisson, ou même qu'on prenne Vladimir Poutine qui on veut. On peut faire ce qu'on veut avec la poésie, à partir du moment qu'on prend du réel. Mais le thème, c'est presque le contraire de la poésie, d'une certaine manière. Et donc, là, il y a quelque chose qui est assez ridicule, assez amusant, comme tous les ans, le Printemps des Poètes, ce qui amène dans toutes sortes de villages de France des petits festivals du style État de grâce, et en échange de état de grâce, Sophie Nolot se calme un petit peu, elle donne la sub. Voilà. Mais nous sommes à la fois hors du Printemps des Poètes cette année, on a supprimé les inscriptions, et cependant, on maintient cette idée, comme tous les ans, d'introduire le thème, c'est-à-dire, cette année, presque une horreur, il faut le dire. Voilà.
Alors, je ne sais plus quoi dire, juste... Ce matin, en prenant un bain, ce qui ne m'était pas arrivé depuis des années, c'était trop bien. J'ai lu un extrait du livre Vivarium, dont je jalouse un peu le titre, je dois dire. C'est un très beau titre, de Tanguy Viel. Et j'ai juste envie de vous lire la phrase qui est à page 68. Elle est un peu chantournée et compliquée, comme l'écrit Tanguy Viel, mais elle dit tellement de choses de ce que nous essayons de faire. Comme beaucoup, j'ai vécu sous le coup de cette intuition poétique, celle que la musique cousinerait plus volontiers que les autres arts avec le fond propre des choses, de nous, du cosmos, et serait ainsi d'une profondeur plus magmatique, là où affleure le mouvement d'une pensée encore à l'état de nerf, et qui, dans cet état même, porterait brûlante la puissance de son devenir. C'est sans doute pourquoi il m'a toujours semblé que ce qui présidait à l'écriture était profondément musical, grondé, sourdé, tremblé et, pour parler comme Schopenhauer, voulait.
Bien, merci, bonsoir.
Mémodio, une mémoire sonore.